querer, tontos.
Salut à tous, bienvenue sur Bike FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Chaque vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Et comme chaque semaine, eh bien, je vous ai proposé une petite sélection de nouveautés. Alors, pas mal de nouveautés du jour et puis également des nouveautés du 11 et du 4 mai. Voilà ce qui vous attend pendant une heure sur Bike FM. J'ai des gros trucs à vous proposer aujourd'hui, notamment la sortie du jour qu'on va découvrir dans quelques instants. En fin d'émission, il y aura bien sûr la rubrique Sortez Cover. Et puis, si vous êtes amateur de moto, préparez vos téléphones puisque d'ici allez, une vingtaine de minutes, on vous offrira des accès paddock pour les 12 heures de Manicourt. Les 12 heures de Manicourt, ce sera le week-end prochain, donc restez bien branchés sur Bike FM. Le jeu, c'est tout à l'heure. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir ce qui se passe un petit peu du côté des paddocks, ne manquez pas cette émission avec les places à gagner. Allez, tout de suite, lancement des hostilités et on va commencer par s'arrêter du côté de Las Vegas. La sortie du jour, elle est signée Five Finger Death Punch. L'album s'appelle And Justice for None. Il a fallu très peu de temps hein, finalement à ce groupe pour se faire une place au soleil parmi les pointures du métal. Le groupe nous vient de Las Vegas, donc dans le Nevada. Il existe depuis 2005. C'est le guitariste d'origine hongroise Zoltán Báthory qui est à l'origine du groupe, mais c'est le tumultueux chanteur Ivan L. Moody qui en est le leader. Et si jamais vous vous posez la question, eh bien sachez que le nom de Five Finger Death Punch, ça fait en fait référence au cinéma de Kung-Fu hongkongais. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à creuser par vous-même, on n'aurait pas le temps hein, de développer là-dessus. En tout cas, Five Finger Death Punch, c'est du heavy metal 2.0. Alors ce que je veux dire par là, c'est que c'est du heavy metal moderne qui puise ses influences aussi bien dans le heavy traditionnel des années, on va dire, 70-80 plutôt, que dans le thrash, le metal alternatif, le groove metal, voire même le metalcore. Le heavy metal de Five Finger Death Punch, il est à la fois massif et mélodique. Alors, c'est un groupe qui a été superstar dans son pays presque dès le début de sa carrière, avec trois premiers albums qui vont connaître un très large succès commercial. Il y aura The Way of the Fist en 2007, War is Answer en 2009, il y aura aussi American Capitalist en 2011. Et puis ensuite, Five Finger Death Punch va pas tarder à se bâtir une très solide réputation à travers le monde, dans l'Hexagone également, où les médias vont pour ainsi dire unanimement saluer les deux volumes de l'album The Wrong Side of Heaven and The Righteous Side of Hell, qui paraissent en 2013, hein, ces deux volets. Tout comme le public français d'ailleurs, qui va répondre largement présent lorsque les Américains vont se produire dans un Bataclan archi-complet, ou encore sur la scène du Hellfest en 2015. Et ça, ce sera quelques semaines seulement avant la sortie de l'album Got Your Six. Un album qui sera presque synonyme, ou qui sera même synonyme de consécration pour le combo de Las Vegas. C'est donc un avenir radieux qui s'annonce à ce moment-là pour Five Finger Death Punch. Du moins jusqu'à ce que l'alcoolisme du chanteur Ivan Moody lui fasse péter un câble sur scène, obligeant le groupe à le mettre sur la touche le temps qu'il puisse suivre une cure de désintox, une période des plus incertaines durant laquelle l'intérim va être assuré par un certain Tommy Vext, dont on reparlera tout à l'heure pour une autre formation. Alors, pour revenir à aujourd'hui, c'est donc débarrassé, enfin du moins pour le moment, de ces démons éthyliques que Moody nous revient avec ce nouvel album qui est Injustice for None, un septième album dont le titre fait bien sûr allusion au célèbre album de Metallica, Injustice for All. Alors, sur ce nouvel opus, eh bien, Five Finger Death Punch nous dresse un portrait sombre et cynique, presque amer, sur la situation du monde et de la société en ce moment. Musicalement parlant, certes, on n'y trouve rien de bien révolutionnaire, puisqu'on reconnaît la patte et l'identité du groupe dès les premiers riffs qui sont bien musclés, ce genre de riffs qu'ont fait leur popularité. Mais on a quand même quelques surprises hein, sur cet album, comme par exemple le très dansant Champagne, ou une très belle ballade qui est aussi une des forces du groupe qu'on avait pu constater sur les albums précédents. Celle de cet album à retenir, c'est When the Seasons Change. En tout cas, Injustice for None, qui d'ailleurs, j'en profite pour le souligner, propose également deux reprises, hein, le titre d'Offspring qui était paru sur le best-of, et puis un titre du bluesman Kenny Wayne Shepherd. C'est un album puissant, qui est relativement varié, qui est efficace, qui est doté d'une production aussi mastoc que léchée. D'ailleurs, elle est signée cette fois encore par Kevin Churko. Et ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que Five Finger Death Punch est désormais incontestablement un des principaux leaders de la scène métal de ce 21e siècle. Depuis son émergence, ces 6 albums ont tous été certifiés au moins disque d'or. Il y a eu 3 qui ont été consacrés disque de platine. Et au total, le groupe comptabilise quand même plus de 2 billions de streams. J'ai dit billions, hein, j'ai pas dit millions. Voilà un peu comment on peut résumer leur carrière aujourd'hui. Et ce que je peux rajouter pour terminer, c'est qu'à l'écoute de Injustice for None, l'histoire, je pense qu'elle est pas prête de s'arrêter. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau Trouble qui ouvre l'album. C'est tout de suite, c'est sur Wake FM. Five Finger Death Punch à l'instant sur Bike FM, nouveau poids lourd de la scène metal US. Le titre qu'on vient d'écouter, c'est Trouble, c'est un extrait de l'album And Justice for None, le 7e du groupe qui paraît ce vendredi, qui est donc disponible dans une version simple et une version un peu de luxe avec plus de titres. C'est celle-là que je vous conseille de vous procurer, avec aussi deux reprises, une reprise de Offspring qu'on avait écouté il y a quelques temps, qui était déjà paru sur leur best-of, et puis une reprise du bluesman américain Kenny Wayne Shepherd, qui avait connu pas mal de succès au milieu des années 90. Voilà pour Five Finger Death Punch, le groupe du tumultueux Ivan L. Moody. On part maintenant du côté de la Finlande, vous voyez, on voyage beaucoup dans cette émission Check Me Load encore, et on va parler du groupe Amorphis qui sort lui aussi aujourd'hui un nouvel album, un album qui s'appelle Queen of Time. Alors Amorphis, c'est un groupe qui nous vient de Helsinki, qui s'est formé en 1990, qui a été fondé notamment autour des guitaristes Esa Holopainen et Tommy Koivusaari, dont j'ai certainement écorché le nom. Il y avait aussi le batteur Jan Rechberger. Alors, pour ce qui est de leur style, au début, c'était essentiellement du death doom. Et puis ensuite, il y a eu une évolution vers un métal plus mélodique, un métal plus moderne aussi, qui inclut des influences heavy, progressives, mais aussi folk. Et ça, c'est un petit peu plus singulier. Alors, on peut diviser la carrière d'Amorphis en deux parties. Il y en a une première qui va des débuts jusqu'à 2003. Durant cette période, le groupe est sous contrat avec le label américain Relapse Records et va sortir tout d'abord deux albums de death metal. Ce sera The Karelian Isthmus en 92 et puis Tolls from the 100 Lakes en 94, avant de se lancer dans une série de disques dans lequel ils vont commencer à expérimenter des nouvelles sonorités. Et ensuite, il y a le début de la deuxième période qui débute en 2006 avec l'album Eclipse, qui lui va marquer le début de la collaboration d'Amorphis avec le label Nuclear Blast, mais qui va marquer surtout également l'arrivée du chanteur Tommy Hudson, qui va apporter beaucoup au groupe, qui avec lui semble enfin avoir trouvé son style musical et puis son univers, à travers un métal qui est à la fois progressif, atmosphérique, mélodique, teinté avec ses fameux éléments folk. Alors si l'album Silent Waters en 2007 est ni plus ni moins la suite d'Eclipse, son successeur Skyforger va mettre la barre très haute. Il va être acclamé à la fois par les médias et par les fans. Ça va être un énorme succès pour le groupe, qui du coup va s'endormir un petit peu sur ses lauriers pour l'album The Beginning of Time qui arrive en 2011, mais va se reprendre avec Circle en 2013 et aussi avec le très réussi Under the Red Cloud en 2015, qui marquait cet album une première collaboration entre les Finlandais et le producteur vedette suédois Jens Bogren. Donc, justement, cette collaboration fructueuse, le duo a choisi de la renouveler pour son 13e album, Queen of Time, qui paraît aujourd'hui, qui s'inscrit tout naturellement dans la droite lignée de son prédécesseur, mais à travers lequel, Amorphis nous propose, comme d'habitude, son lot de nouveautés, d'évolutions, de surprises, qu'on découvre au fil des 12 nouvelles compos. Des compos qui sont à la fois inspirés, solides, arrangés avec une minutie incroyable. Alors, s'il est certes un petit peu moins facile d'accès que Under the Red Cloud, Queen of Time en est pas moins un sublime voyage musical aussi agréable que transcendant, dans lequel se cachent quelques tubes en puissance qui sont magnifiquement servis par une prestation impeccable du frontman Tommy Houston. En voici d'ailleurs tout de suite un extrait avec le morceau The Bee, et j'en profite pour signaler que Amorphis sera en concert au Hellfest le dimanche 24 juin.
In the night,
Le mélange parfait entre métal mélodique et death metal, c'était le son de Amorphis que vous venez d'écouter, avec un morceau qui s'intitule The Bee, qui est sur le nouvel album Queen of Time, qui paraît aujourd'hui. Amorphis, groupe qui nous vient de Finlande, groupe qui sévit depuis les années 90 et qui nous propose là encore une très belle pièce dans une très belle discographie où il y a peu d'albums faibles, il faut quand même bien l'avouer. On va rester en Scandinavie pour le groupe prochain, on va rester un petit peu aussi dans l'esthétique death, puisqu'on va s'intéresser au groupe At The Gates, et lui aussi sort un album aujourd'hui, décidément que de bonnes choses en ce 18 mai, un nouvel album qui s'intitule To Drink From The Night Itself. Alors At The Gates vient de Göteborg, il s'est formé la même année qu'Amorphis en 1990, c'est un groupe qui s'est créé autour de Thomas Lindberg au chant, des frères Björler, donc Andreas à la guitare et Jonas à la basse. Il y a également Alf Zevenson à la deuxième guitare et Adrian Erlandsson à la batterie. Un line-up qui a, je vous avoue, quand même quelque peu évolué au fil des années et des hiatus. Alors là, on est sur un death metal qui est aussi mélodique, hein, mais c'est... At The Gates, c'est un groupe qui est précurseur aux côtés de In Flames, Dark Tranquility ou Hypocrisy, de ce qu'on va appeler la New Wave of Swedish Death Metal. Et justement, At The Gates va largement contribuer à l'évolution du style vers des sonorités plus mélodiques. Le combo rompra également avec certains stéréotypes entre guillemets du death metal en abordant dans ses chansons eh bien, des thèmes de société et d'actualité, ce qui ne se faisait pas forcément au départ. Après un premier EP en 91 qui va mener à un contrat avec le label Peaceville Records, At The Gates va enchaîner les albums The Red In The Sky Is Ours en 92, With Fear I Kiss The Burning Darkness en 94, Terminal Spirit Disease en 94 et Slaughter of the Soul que beaucoup considèrent comme son œuvre majeure en 1995. Pourtant, malgré le succès grandissant, le groupe va décider l'année suivante de séparer. Alors les frères Björler et Adrian Erlandsson vont former de leur côté The Haunted, et il faudra ensuite attendre 2008 pour avoir des nouvelles du combo qui va se reformer le temps d'une tournée d'été, sans pour autant envisager à ce moment-là de retourner un jour en studio. Mais, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et fin 2014, At The Gates sortait l'album At War With Reality, qui arrivait donc presque 20 ans après Slaughter of the Soul, et qui a reçu un accueil quand même largement positif. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont visiblement bien décidés à continuer sur cette lancée, puisque cette fois-ci, le groupe aura mis que 3 ans et demi à dégainer un nouvel opus, qui sort donc aujourd'hui. Il s'intitule, je le rappelle, To Drink From The Night Itself. Et c'est un 6e album qui a été produit par Russ Russell, qui a bossé avec Napalm Death, avec Dimmu Borgir aussi. Et c'est aussi un 6e album qui est assez facile à résumer. En 45 minutes, At The Gates réussit l'exploit de réunir la rage de Slaughter of the Soul, les mélodies torturées de Terminal Spirit Disease, le désespoir de With Fear I Kiss Burning Darkness, les ambiances de The Red In The Sky Is Ours et la puissance de At War With Reality, le tout à travers des titres redoutables qui sont aussi riches que variés, avec To Drink From The It's the night itself at the gates. Alors j'ai un petit peu du mal là. At The Gates signe un album qui est à la fois agressif et mélodique, brutal et sensible. Moi je trouve que c'est particulièrement réussi. En voici d'ailleurs la preuve en musique avec le titre A Stair Bound in Stone. Et tout comme Amorphis, le groupe sera en concert au Hellfest le dimanche 24 juin. A Stair Bound in Stone, c'était At The Gates sur Back FM 106.1 dans l'émission Metal Check Me Load. At The Gates sort aujourd'hui un tout nouvel album intitulé To Drink From The Night Itself, c'est donc à découvrir dès maintenant. Attendez quand même la fin de l'émission, puisque je le rappelle, et ça va arriver d'ici très très peu de temps, d'ici quelques minutes, je vais lancer le jeu pour vous permettre de gagner des accès paddock pour les 12 heures de Manicourt qui vont se dérouler le week-end prochain. Donc les amateurs de moto doivent se munir de leur téléphone dès maintenant pour être prêts à dégainer. On va quand même prendre le temps d'écouter un dernier morceau avant de lancer le jeu. Et on va s'intéresser à un groupe américain, un groupe qui s'appelle Burn the Priest. Alors si vous cherchez, vous n'allez pas trouver grand-chose, puisqu'en fait, derrière cette identité se cache en fait Lamb of God. Et aujourd'hui, ils nous sortent un album intitulé Legion 20. Alors il sort en digital aujourd'hui, par contre pour la version physique, il faudra attendre la semaine prochaine, le 25 mai. Alors comme j'ai expliqué à l'instant, Burn the Priest, c'est pas du tout une nouvelle formation, puisque c'est en fait Lamb of God qui a choisi de se rebaptiser comme ça. Lamb of God, c'est un groupe qui a été fondé en 94 à Richmond, en Virginie, sous le nom de Burn the Priest, justement, par trois copains d'université, le guitariste Mark Morton, le bassiste John Campbell et le batteur Chris Adler, qui vont être rejoints en 95 par le chanteur Randy Blitt. Alors, avec Lamb of God ou Burn the Priest, on est sur du groove metal. Pour les néophytes, comprenez un mélange de thrash, de heavy, de punk hardcore et de crossover thrash, un style qui a été popularisé largement par Pantera. En 99, pour revenir à Lamb of God, le combo sort un premier album éponyme qui s'intitule, je vous le donne en mille, Burn the Priest. Donc à ce moment-là, ils s'appellent toujours comme ça, et c'est juste après qu'ils vont choisir de devenir Lamb of God. Alors ce premier album sera suivi en 2000 de l'album New American Gospel, qui va connaître un très très bel accueil outre-Atlantique, où le groupe est qualifié justement de digne héritier de Pantera. Vendu à plus de 100 000 exemplaires aux États-Unis, ce premier succès permet au combo de s'offrir les services de Devin Townsend pour produire son album suivant qui s'appelle As the Palaces Burn, qui paraît en 2003. Alors les ventes vont être quand même deux fois supérieures à l'album précédent, et cette fois-ci, tout ça, ça va permettre à Lamb of God de signer avec une major, avec Epic, pour l'album Ashes of the Wake, qui paraît en 2004. À partir de ce moment-là, le groupe va être considéré comme faisant partie des leaders du courant New Wave of American Heavy Metal, baptisé ainsi en hommage à la New Wave of British Heavy Metal anglaise des années 80. Et le combo de Richmond va continuer d'aligner les succès, va connaître son apogée avec l'album Wrath, qui est sorti en 2009, qui va se hisser à la tête des charts américains et canadiens. Il sera ensuite suivi de Resolution en 2012, de Seven Storm and Drunk en 2016, et puis enfin de l'EP The Duke la même année. Mais si on parle de Lamb of God, rebaptisé Burn the Priest aujourd'hui, c'est pour la sortie du disque Legion 20, qui est en fait un album de reprise que le combo sort pour célébrer les 20 ans d'ici quelques mois de son tout premier album éponyme. Alors j'aurais pu vous servir cet album en guise de sortie cover, mais voilà, c'est ça, j'avais autre chose en tête, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la prog des albums qui sortent aujourd'hui. Alors c'est donc une sélection de 10 morceaux, ou 11 pour l'édition vinyle, qui sont issus du répertoire trash, punk, hardcore, crossover, noise et même indus que nous propose Randy Blitt et sa bande, qui ont choisi de mettre à l'honneur des formations qui ont contribué à façonner le son de Lamb of God, comme par exemple les Melvins, Bad Brains, Agnostic Front, SOD ou encore The Accused, dont on va écouter la version revisitée du titre Inherit the Earth dans quelques instants. Le tout a été enregistré sous la houlette de Josh Wilbur, un producteur incontournable de la scène américaine et collaborateur de longue date de Lamb of God. On écoute donc Inherit the Earth, c'est Burn the Priest sur Back FM, et restez bien avec nous pour gagner vos places pour les 12 heures de Manicourt. Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Vous écoutez l'émission Check Me Load, votre émission métal qui vient de vous diffuser Burn the Priest avec le morceau Inherit the Earth. Un morceau au départ du groupe The Accused, un groupe américain. Et donc Burn the Priest, je tiens juste à vous rappeler que derrière ce nom se cachent en fait les membres de Lamb of God qui ont décidé à travers cet album qui est Legend 20 qui sort aujourd'hui, et bien de célébrer les 20 ans de son tout premier album éponyme qui s'appelait Burn the Priest. Voilà, vous savez tout. On passe maintenant à un autre groupe, mais avant je voulais quand même reparler un petit peu moto avec vous. Donc comme je vous ai dit plusieurs fois depuis le début de l'émission, les 25, 26, 27 mai sur le circuit de Nevers-Manicourt se dérouleront les 12 heures. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous offrir l'accès au paddock. L'entrée est gratuite, donc on vous offre pas les billets pour entrer. Par contre, c'est payant pour aller au paddock. Et dans un premier temps, moi j'ai 5 accès à vous offrir. Pour les gagner, ce sera tout simple. Alors par contre, attendez bien que la musique soit démarrée parce que je n'ai pas le don d'ubiquité et je ne pourrai pas vous répondre si je suis en train de parler. Mais comme il y a 5 accès, les 5 premiers appels seront les gagnants. Voilà, premiers appels, premier servi. Donc restez à l'écoute et dès que la prochaine musique part, vous composez le 03 86 59 36 36 03 86 59 59, 36, 36, dès que la prochaine musique partira pour remporter donc ces fameux accès paddock. Et tout à l'heure, en parlant de Five Finger Death Punch, je vous ai dit qu'on allait reparler de celui qui avait assuré le remplacement de Moody, un certain Tommy Vext. Eh bien, si on en reparle aujourd'hui, c'est pour son autre formation, sa formation actuelle, Bad Wolves, qui a sorti un album, son premier album intitulé Disobey, la semaine dernière, le 11 mai. Alors, ça vous a probablement pas échappé, depuis quelques semaines, on entend sur toutes les radios, même les plus commerciales, une reprise métal de la chanson Zombie, le tube interplanétaire des Cranberries. Ce titre devenu viral, qu'on avait d'ailleurs diffusé dans cette émission lors de sa sortie en janvier dernier, est signé d'un groupe californien qui s'appelle Bad Wolves et qui fait donc en ce moment un énorme carton partout dans le monde. Le clip a été visionné plus de 58 millions de fois sur YouTube, donc c'est assez énorme. Et donc, leur premier album Disobey, paru la semaine dernière, bénéficie de cette soudaine popularité pour s'offrir une place de choix dans les charts. Mais au juste, qui sont les Bad Wolves? Une petite présentation s'impose. Donc, le groupe nous vient de Los Angeles, il existe depuis peu de temps, depuis 2017. Et Bad Wolves, c'est un peu ce qu'on appelle un super groupe, puisqu'il réunit des musiciens qui se sont déjà illustrés au sein de formations reconnues. Alors, le combo se compose donc du chanteur déjà présenté Tommy Vext, qui outre son remplacement dans Five Finger Death Punch, a aussi officié dans Snot et dans Divine Heresy. On trouve également au sein de Bad Wolfies les guitaristes Doc Coyle, qui est un ex God Forbid, et Chris Kane, qui lui a officié dans Bury Your Dead, le bassiste Kyle Conkill, qui a joué avec In This Moment, et le batteur John Bocklin, qui est un ex Devil Driver. En outre, il faut savoir que le manager de Bad Wolfies n'est autre que Zoltan Bathory de Five Finger Death Punch. Voilà, et la boucle est bouclée. Alors pour ce qui est du style de ce nouveau combo, et ben là encore, hein, on est un peu dans la lignée de Five Finger Death Punch, puisque c'est du heavy metal moderne avec des influences metalcore progressives, même quelques soupçons de hard rock par-ci par-là. Il y a tout juste un an, en mai 2017, Bad Wolfies sortait son tout premier titre, Learn to Live, qui avait été suivi en novembre d'un deuxième single, Toast to the God, deux titres qu'on retrouve sur l'album. Mais c'est en janvier dernier, le 15 janvier précisément, que tout va s'accélérer pour le groupe, alors qu'il se trouvait à Londres pour enregistrer en compagnie de Dolores O'Riordan, et bien une reprise de la chanson culte Zombie. Malheureusement, Dolores O'Riordan ne se rendra jamais au studio, elle sera retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel, et en hommage à celle-ci, et bien Bad Wolfies va choisir de sortir le morceau, donc bah sans sa voix, hein, le 19 janvier, en annonçant que tous les bénéfices tirés de la vente de la chanson seraient reversés aux enfants de la chanteuse. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Zombie ne représente qu'une infime partie, une toute petite facette de ce qu'est la musique de Bad Wolfies, que l'on découvre réellement finalement à travers ce premier album qui s'appelle Disobey, et qui propose, ma foi, des titres qui sont plutôt musclés, qui sont solides, qui sont efficaces, qui sont plus proches du metalcore que de la pop. C'est plutôt pas mal réussi, je pense que c'est taillé pour squatter de toute façon la tête des charts. On écoute tout de suite Bad Wolfies avec le morceau No Masters, et vous pouvez y aller, vous pouvez dès maintenant composer le 03 86 59 36 36 pour remporter vos accès Pad pour les 12 heures. Let's go! No Master sur Back FM. Vous venez d'écouter le groupe Bad Volvies, les mêmes qu'on écoute à longueur de temps avec le titre Zombie. Vous êtes toujours dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Et donc l'album Disobey, premier album de Bad Volvies, est disponible depuis le 11 mai. J'en profite pour rappeler que vous pouvez remporter des accès paddock pour les 12 heures de Manicourt qui se dérouleront donc le week-end prochain, les 25, 26 et 27 mai. Pour cela, rien de plus simple, vous composez le 03 86 59 36 36. Et nous, eh bien, on vous file vos accès pour aller faire un tour du côté des paddocks. Continuons notre tour d'horizon des sorties. On va rester justement sur le 11 mai où il y a eu une autre sortie dont je voulais vous parler la semaine dernière et puis finalement j'ai pas eu le temps, donc on va profiter de cette émission pour faire un petit focus sur le groupe Seven Dust, un groupe encore américain qui a donc sorti un nouvel album intitulé All I See Is War. Alors Seven Dust, c'est un groupe qui est déjà plutôt ancien, puisque le groupe a été fondé en 1994 à Atlanta, en Géorgie. Il a été au départ créé par le bassiste Vince Horsby et le batteur Morgan Rose. Le groupe est vite complété ensuite par les guitaristes John Connolly et Clint Lowery, ainsi que le chanteur Leon Witherspoon, un line-up qui est toujours d'actualité, même s'il y avait eu quelques petits changements ces derniers temps. Alors là, avec Seven Dust, on est sur du métal alternatif, ou du new metal, hein, comme on disait à l'époque. D'ailleurs, à ses débuts, le groupe était un petit peu dans la même lignée que Korn ou Deftones. Aujourd'hui, ils ont évolué dans quelque chose d'un petit peu plus hard rock, il faut bien l'avouer. Le succès commercial de Seven Dust va être assez fulgurant, puisque son premier album éponyme, qui paraît en 97, va se vendre à 732 000 exemplaires aux États-Unis, où il va être certifié disque d'or. Tout comme le seront ses deux successeurs, Home en 99 et Animosity en 2001, qui sont, il me semble, les deux albums les plus connus du groupe, du moins en France. Une discographie qui s'est depuis largement agrandie et qui compte désormais 12 albums studio, donc dont le dernier dont on parle aujourd'hui, All I See Is War, qui est tout frais d'une semaine. Alors ce nouvel album, il a été enregistré en Floride avec le producteur Michael Elvis Basket, qui a entre autres travaillé avec Alter Bridge ou Slash. Et donc, ce qu'on peut dire de All I See Is War, c'est que c'est un album qui est homogène, qui manque pas de puissance, mais qui propose également un aspect plus chaleureux de Seven Dust, qui s'éloigne de plus en plus du new metal, ce style qu'il a fait connaître, pour un son qui penche désormais bien plus vers des influences post-grunge, j'ai envie de dire. Une évolution qui sied d'ailleurs parfaitement à Seven Dust, qui nous offre là un album bien très mature, qui est soigné, qui est parfaitement bien produit. Alors c'est pas révolutionnaire, pourtant c'est vraiment très très agréable à écouter. Voici tout de suite un extrait de All I See Is War, avec un morceau qui s'appelle Dirty, et vous pouvez toujours nous appeler au 03 86 59 36 36 pour gagner vos passes pour les 12 heures de Manicourt.
This thing called war, just a person star.
La scène métal alterno-américaine est décidément très très en forme en ce moment. C'était Seven Dust à l'instant avec un titre qui s'appelle Dirty. C'est extrait du nouvel album du groupe qui s'appelle All I See Is War, qui est disponible depuis une semaine. Avant de passer à la suite de la programmation, si jamais vous ne partez pas en week-end, ce week-end pour le coup, et que vous n'avez rien de prévu, allez faire un petit tour au charbon demain soir, puisque la No Way Asso va fêter ses 10 ans, et pour ce faire, va vous proposer 3 groupes. Donc il y aura Godbleed qui va faire son grand retour avec un EP que le groupe a présenté dans le Culture en Vrac de mercredi dernier, que vous pouvez retrouver en podcast. Et puis également au programme de cette soirée, vous pourrez retrouver le groupe Ingrina qui vous proposera un post-hardcore orageux. Et enfin, il y aura le groupe Birds in Row que la Noé avait envie de faire venir depuis un bon moment sur Nevers. Le rêve va se concrétiser dès demain avec donc le passage du groupe sur la scène du Café Charbon. C'est demain, tarif 10 euros, c'est tarif unique, c'est à partir de 20h, les 10 ans de la Noé Asso. Bravo à eux et belle et longue vie encore à cette super assaut. Suite du programme, on va reculer encore d'une semaine. On était au 11 mai, là on va reculer au 4 mai avec un groupe français cette fois-ci, un groupe qui s'appelle Equinox. Alors vous allez voir, c'est un petit peu pas banal ce qui se passe pour le groupe Equinox, qui a sorti donc The Cry of Gaia, son tout premier album le 4 mai, mais qui en fait c'est pas un nouvel album pour autant, mais je vais vous expliquer tout ça. Juste avant, je vais quand même vous dire 2-3 mots sur qui est Equinox. Donc c'est un projet qui est né en France, en Bretagne plus précisément. Au départ, c'est le projet musical d'un prodige de la guitare qui s'appelle In Office, et qui malgré son tout jeune âge possède déjà un sacré bagage professionnel. Et donc, pour donner vie à son ambitieux projet, In Office va s'entourer d'une équipe de musiciens, une sacrée équipe de musiciens, puisqu'on y trouve les talentueux Pascal Mulot à la basse et Aurélien Ouzoulias à la batterie, donc la section rythmique de Satan Jokers, entre autres, mais pas que, hein, puisque ces deux musiciens-là, ça fait partie de l'élite des musiciens français. On est dans les meilleurs en ce qui se fait à la basse et à la batterie. Et puis, avec eux, on trouve également le non moins talentueux chanteur Emmanuel Kress. Alors, Equinox, c'est du métal symphonique et progressif. Le 4 mai dernier, le combo sortait son premier album intitulé The Cry of Gaia, du moins en version physique, en version CD, parce que la version numérique du disque, eh bien figurez-vous qu'elle est parue en 2015, mais à l'époque elle avait pas bénéficié d'une très grande visibilité dans les médias. Alors c'est le guitariste In Office qui a composé l'intégralité de The Cry of Gaia, dont le thème tourne principalement autour de l'écologie, de comment les hommes maltraitent la Terre, qui un jour risque de se rebeller et d'éliminer justement les hommes. Les compositions sont vraiment très très subtiles, mais sans oublier d'être puissantes, avec notamment de très très belles orchestrations. L'atmosphère du disque, elle est tour à tour sombre, lumineuse, enthousiaste, presque épique, ou encore mélancolique. Quant à la prestation de nos quatre musiciens, eh bien elle est magistrale, réellement. Alors c'est vraiment dommage que The Cry of Gaia soit quasiment passé inaperçu pour sa sortie en 2015, parce que Equinox possède vraiment un potentiel incontestable, et on attend un deuxième opus avec grande impatience. Mais bon, je pense qu'il va falloir encore patienter quelques temps. En attendant, voici un extrait de The Cry of Gaia avec justement le morceau titre. Ah oui, puis une dernière chose avant d'envoyer le morceau, j'ai oublié de souligner que le disque compte également une sublime reprise de Show Must Go On de Queen, mais ça on en reparlera dans quelques minutes dans la rubrique Sortez Cover. We'll be right back. C'était Equinox sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Meload. Vous venez d'écouter le titre The Cry of Gaia, extrait de l'album du même nom, paru donc dans sa version définitive le 4 mai, mais qui était disponible en version numérique depuis déjà 2015. Alors la voix qu'on entend, c'est celle d'Emmanuel Kreis, et je voulais juste signaler que récemment, ce jeune chanteur a fait l'émission La Voix. Alors qu'est-ce que La Voix ? Eh bien, c'est la version québécoise de The Voice que certains regardent chaque samedi sur TF1. Donc il est allé jusque au duel, me semble-t-il, et c'est là où il s'est fait éliminer par une chanteuse qui a été plus forte que lui. En tout cas, il a un sacré brin de voix, Emmanuel Kreis. Il est entouré d'une équipe fabuleuse, In Office à la guitare, Pascal Mulot à la basse, Aurélien Ouzoulia à la batterie. Très très bon groupe. Alors j'aurais juste peut-être un petit bémol sur cet album, c'est le mix. Je trouve que voilà, on met... Il est peut-être pas très très bien équilibré ce mix, mais bon, c'est un premier album et je pense que le deuxième devrait être assez énorme. En tout cas, c'est un groupe à suivre. Et comme on aime beaucoup Equinox aujourd'hui sur Bac FM, eh bien c'est double ration pour vous, puisque j'ai décidé de mettre le groupe à l'honneur également pour terminer l'émission dans la rubrique Sortez Cover. Et c'est pour sa reprise de la chanson culte de Queen's Show Must Go On qu'on va écouter une nouvelle fois Equinox. Alors pourquoi j'ai choisi The Show Must Go On de Queen, outre bien sûr l'actualité d'Equinox? Eh bien c'est tout simplement parce que cette semaine on a découvert la toute première bande-annonce du film Bohemian Rhapsody, le biopic consacré au groupe Queen, qui sortira dans les salles le 31 octobre prochain. Un film dans lequel on découvre la carrière des Anglais depuis la rencontre de Freddie Mercury, incarné par un Rami Malek que je trouve très convaincant, et de Brian May, qui est ce jusqu'au triomphe du groupe au Live Aid en 1995. Alors moi je vous avoue que j'ai plutôt hâte de découvrir ce film. Queen, c'est un groupe que j'aime bien, je suis pas fan absolu, mais c'est un groupe voilà qui a marqué vraiment l'histoire du rock, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, ce biopic. Mais revenons à la chanson The Show Must Go On. Donc c'est sur l'album Innuendo qu'elle paraît pour la première fois en février 1991, à la toute fin du disque, avant d'être édité en single le 14 octobre de la même année, à l'occasion de la sortie du Best of Greatest Hits 2. The Show Must Go On est donc l'ultime chanson de Queen à paraître du vivant de son chanteur, Freddie Mercury, qui va décéder le 24 novembre 1991 des suites d'une pneumonie, après avoir déclaré la veille qu'il était atteint du sida. D'ailleurs, lors de l'enregistrement du morceau, Brian May se montre très inquiet devant l'extrême faiblesse de Freddie Mercury. Il le pense même incapable d'enregistrer. En guise de réponse, le chanteur va avaler un verre de vodka et déclarer « Putain que je vais le faire, chérie !» Il va enregistrer le titre en une seule prise. Considéré un petit peu comme le testament du chanteur pour ses fans, c'est pas un hasard si The Show Must Go On clôt l'album Innuendo. Tout au long du morceau, une atmosphère tragique et oppressante se dégage, même si l'espoir l'emporte à certains moments sur la résignation. Car oui, malgré tout, le spectacle doit continuer. Tel est le message délivré par Freddie Mercury à travers les paroles qu'il a écrites avec Brian May. D'ailleurs, le clip également, c'est une sorte de testament, voire même un hommage au chanteur, puisque... on y voit une véritable rétrospective de l'histoire visuelle du groupe qui donc montre des plans d'anciens clips tout en enchaînant les clins d'œil nostalgiques à l'exubérance de Freddie Mercury et à son talent de showman durant ses 20 années de carrière d'icône de la musique rock. Alors bien évidemment, The Show Must Go On a été reprise un bon nombre de fois, un nombre de fois incalculable même, mais voici pour vous la version métal symphonique et progressive du groupe Equinox, qui a su moderniser la chanson tout en y ajoutant sa touche et son univers, mais le tout sans la dénaturer, donc un très bel exploit. Je vous souhaite sur ce un bon week-end sur Bac FM, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. On écoute The Show Must Go On, revu et corrigé par Equinox. Salut à tous.